prions ensemble avec quelques mots des psaumes, du psaume 19. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Merci, notre Père Céleste, pour ta parole qui est douce comme le miel, qui est plus précieuse même que beaucoup d'or fin. Que tu nous donnes d'avoir cette vision de ta parole ce matin et que tu nous aides d'entendre tes avertissements et d'observer ta parole pour cette grande récompense. Et nous prions cela au nom de ton Fils. Amen. Lisons le passage alors ensemble. 1 Jean 1, à partir du verset 5. 1 Jean 1, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'était la plus grande catastrophe maritime depuis toujours. Le bateau appelé le Donia Paz est parti de l'île de Leyte aux Philippines le matin du 20 décembre. C'était un voyage de routine vers la porte de Manille. Il y avait plus de 4000 personnes à bord. La nuit arrivée, le bateau est entré dans le détroit de Tablas, et lorsque la plupart des passagers dormaient. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une collision à haute vitesse avec un pétrolier transportant 1 million de litres de pétrole. Tout de suite, le pétrole s'est enflammé et a causé un incendie qui s'est étendu aussi rapidement sur le Donia Paz. Un troisième bateau qui passait dans le détroit a vu ce qui s'est passé et est venu tout de suite pour chercher des survivants. Après 2 heures seulement, le Donia Paz avait coulé au fond de la mer. Parmi les 4300 personnes à bord, seulement 24 ont été retrouvés, ce qui fait que ça demeure aujourd'hui la plus grande catastrophe maritime de tous les temps. Mais cette histoire du Donia Paz nous aide à comprendre le message bouleversant de l'apôtre Jean dans sa première épître. Car il dit, chapitre 2, verset 17, il dit que le monde, ce monde où nous vivons aujourd'hui, est en train de se passer. Comme un bateau qui coule, c'est presque la fin. Et le jugement de Dieu arrive. Et pendant que le bateau coule, il n'y a qu'un seul bateau de sauvetage. Un seul endroit pour être sauvé. Et il dit tout au long de son épître, c'est l'évangile des apôtres qui sauve. Seulement l'évangile des apôtres. Et Jean veut nous persuader, c'est l'acteur, si nous croyons l'évangile apostolique, que nous avons trouvé ce bateau de sauvetage. Nous sommes déjà là-dedans, en sécurité. Et donc, ça ne vaut pas la peine de quitter ce bateau, le seul, unique source de salut. Si vous rappelez, il y a longtemps, nous avons vu les premiers, 4 premiers versets ensemble. Il y avait un groupe à la fois nombreux et très, très sophistiqué qui proclamait un Jésus semblant. Un Jésus semblant. Un Jésus qui semble être homme, mais qui était seulement un esprit. Ça semble bizarre pour nous maintenant, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'ils ont proclamé. Et c'était très tendance à cette époque-là. Et nous allons commencer à voir aujourd'hui pourquoi leur évangile d'un Jésus semblant mène à la destruction. Alors que le message des apôtres mène à la vie. Et la vie éternelle. Nous avons 3 petits points aujourd'hui. Le premier, c'est le suivant. Que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Lisons le verset 5 ensemble, à nouveau. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Je veux être honnête avec vous en commençant, parce qu'auparavant, je lisais le verset 5 que vous voyez là, et je me suis dit, ah, je sais exactement de quoi il s'agit ici. C'est trop facile, et donc je vais commencer mon message tout de suite, sans trop réfléchir. Dieu est lumière, c'est facile, non? Ça veut dire qu'il est saint, il est moralement pur, sans défaut. Et les versets 6 et 7, quand ça parle de ceux qui marchent dans les ténèbres ou dans la lumière, ça doit parler de ceux qui vivent dans la sainteté ou non. Facile, n'est-ce pas? Mais, honnêtement, il y a un gros problème avec ça. Notamment que j'étais très paresseux dans ma lecture. J'essaie de faire dire la parole de Dieu ce que moi je voulais qu'elle dise pour ma propre facilité. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est lumière? Mais est-ce que ça veut dire la sainteté seulement? Je pense que non, parce que ça ne marche pas avec la fin du verset 7, n'est-ce pas? Lisons le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, est-ce que vous voyez un problème là? Si lumière égale sainteté, alors ça veut dire, verset 7, si on vit dans la sainteté, Dieu va nous purifier de tout péché. Alors, ça n'a pas de sens. Si je vis dans le péché, Dieu va ensuite laver mes péchés? Ça ne peut pas être le cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu soit lumière et que les hommes marchent dans la lumière ou plutôt ténèbres. En fait, mes amis, ce n'est pas hyper difficile pour ceux qui sont prêts à travailler un peu. Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être vous savez déjà la réponse parce que vous êtes des lecteurs attentifs de la parole de Dieu. Mais Jean dit au verset 5 que ce n'est pas un message nouveau. Verset 5, il dit que ce n'est pas un message qu'il a inventé, mais qu'il a déjà entendu de la part de quelqu'un. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alors Jean semble citer ici les paroles de Jésus. C'est le lui au verset 5. Alors est-ce que nous trouvons cette idée que Dieu soit lumière dans les paroles de Jésus? Que Jean a entendu, qui peut nous aider? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Alors, tournons ensemble, juste une citation hors de cet épître, à l'évangile de Jean, pour comprendre ce que ça veut dire que Dieu est lumière. L'évangile de Jean, le chapitre 3 et le verset 19, va nous aider beaucoup avec cette idée. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 19. Voici donc les paroles de Jésus. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Pas de surprise, les paroles de Jésus nous aident à comprendre ce que ça veut dire que Dieu soit lumière. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas un simple cas de la sainteté ou la perfection morale ici? Je pense que c'est en lien avec ça, mais beaucoup plus. Le fait que Dieu soit lumière ici, verset 21, c'est l'idée de manifester. Ou verset 20, dévoiler. Et surtout de dévoiler, verset 19, les œuvres mauvaises des hommes. Ça veut dire, verset 20, que quiconque fait des choses mauvaises haït la lumière. C'est logique, n'est-ce pas? Ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et je pense qu'on peut comprendre cet usage, n'est-ce pas, de la lumière. C'est l'emploi habituel dans nos vies, que la lumière rend des choses visibles. Si nous allons au stade Roi Baudouin, par exemple, un lundi soir, en hiver, sous la pluie, on trouve là-bas de grandes lumières, n'est-ce pas, autour du stade. Et quel est le but de ces lumières? Mais si vous les éteignez, ça serait impossible, n'est-ce pas, de voir ce qui se passe sur le terrain, avec Eden, avec Kevin et tous ses amis. Pas de lumière, pas de vision. Mais si vous allumez plutôt ces énormes projecteurs, waouh, alors tout devient très clair, tout est manifesté, on peut regarder le jeu. Et de la même manière, Dieu est lumière, comme un énorme projecteur, dans le sens où il dévoile nos actions, notamment nos actions mauvaises. Ça explique pourquoi on ne peut pas être indifférent, n'est-ce pas, à Jésus? Car, comme c'est dit ces versets, soit on vient à la lumière, soit on va fuir. Et on était tous comme ça avant de se convertir, n'est-ce pas? On voulait fuir. On a haï la lumière. On voulait aller aussi loin que possible de la lumière. Avec cela en tête alors, revenons à 1 Jean. J'espère que ça nous aide maintenant à comprendre ce verset clé qui est comme le titre de cette section. Et on va regarder maintenant les six prochains versets qui sont les conséquences de cela. Si Dieu est lumière, alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et je veux vous montrer que ces six versets qui suivent sont divisés en deux. C'est très logique. Nous avons 3 cas positifs et 3 cas négatifs. Ça fait 3 paires. Et donc, est-ce que tu sais montrer ça? Merci Mathieu. Sur l'écran, est-ce que vous montrez ça? Ces 2 colonnes, on a le côté positif. Pour vous, ça c'est à droite. Et 3 phrases qui commencent avec « si nous disons » à gauche, qui sont le cas négatif. Voici une illustration alors pour les gourmands parmi nous. Je pense que c'est un peu comme une lasagne. Une lasagne. Oui, j'ai dit lasagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que nous avons plusieurs niveaux dans le texte, 3 niveaux. Et dans chaque niveau, nous avons 2 choses qui se contrastent. Toujours un positif et un négatif. Dans une lasagne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 choses normalement. Chaque niveau, la sauce, oh les pâtes, ouais, ça divise, ouais. Qu'est-ce que nous avons, chaque niveau, sauce tomate, ouais, avec viande, et la sauce béchamel. Merci. Nous avons ces deux choses. Je me trompe avec les cuisiniers ou nous avons ces deux choses chaque fois, n'est-ce pas? Sauce tomate, béchamel. Et puis, prochain niveau, sauce tomate, béchamel. On n'a pas sauce andalouse et puis sauce chocolat et puis sauce riche. Non, ça marche pas comme ça. Chaque niveau, nous avons la même idée. Alors, nous avons à chaque niveau ici les conséquences, si Dieu est lumière. Et la première conséquence, c'est les versets 6, 8 et 10. C'est ici. Alors, si Dieu est lumière, ceux qui restent dans les ténèbres n'ont pas de communion avec lui. Lisons le verset 6 ensemble. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est évident, n'est-ce pas? Si Dieu est lumière et que je me trouve ailleurs, dans les ténèbres, je ne suis pas en communion avec Dieu. Si vous êtes à la gare d'Otigny un soir et vous m'appelez et vous dites « James, où es-tu? Je t'attends à la gare d'Otigny. » Et je dis « Oui, je suis avec toi, je suis en communion avec toi, je suis à Zaventem. » Est-ce qu'on a de la communion ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? De la même façon, celui qui dit qu'il a la communion avec notre Dieu de lumière, il peut dire ça autant qu'il veut. Mais ce monsieur reste toujours dans les ténèbres. S'il reste toujours dans les ténèbres, il ment. Il ment. Et il ne pratique pas la vérité. Mais la question brûlante pour nous alors, c'est qu'est-ce que ça veut dire être dans les ténèbres? Et la deuxième tranche de notre délicieuse lasagne l'explique, le verset 8. Toujours avec cette phrase, si nous disons. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors, ce que ça veut dire, marcher dans les ténèbres, ça veut dire que nous n'avons pas de péché. Si Dieu est lumière, alors il révèle, il fait apparaître nos péchés. Alors, rester dans les ténèbres, c'est le désir de ne pas les dévoiler devant Dieu. C'est de dire, en effet, non, je n'ai pas besoin d'être sauvé. C'est de nier la réalité que nous sommes toutes et tous, ici dans cette salle, en Belgique, en Europe, dans tout le monde, nous sommes tous des rebelles contre Dieu, avec des cœurs mauvais. Nous avons tous le besoin d'être pardonnés. Et nous avons tous, dit Jean, dit Jésus, les mauvaises œuvres qui méritent le jugement de Dieu. Et si c'est le cas, si nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, ici nous nous séduisons nous-mêmes. Quelle erreur dans notre propre raisonnement. Alors regardez la dernière tranche ensemble, verset 10, qui va encore plus loin et c'est plus grave. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Au verset 6, nous avons commencé avec l'idée de mentir à nous-mêmes. Au verset 8, nous séduire nous-mêmes. Nous terminons au verset 10 avec la conclusion logique. Nous faisons de Dieu un menteur. Nous n'avons pas besoin qu'il nous sauve, nous disons. Que ce n'était pas nécessaire pour que son fils vienne dans le monde pour verser son sang pour nos péchés. Et ça, c'est une accusation grave, n'est-ce pas? Appeler Dieu menteur. Et c'est le cas si nous restons dans les ténèbres. Mais de qui parle Jean ici? Qui sont ceux qui restent dans les ténèbres? Quelle est l'identité de ceux qui restent dans les ténèbres? Est-ce que c'est l'Église? Je pense que non. Si c'est encore dévoilé, les chapitres 2 et 4 dans cet épître magnifique, Jean va décrire ce nouveau groupe qui apporte un nouveau message, un nouveau Jésus qui était un Jésus semblant, qui semble être un homme, mais plutôt esprit. Alors, quel est le lien entre ce groupe et ce qu'ils disent ici avec les ténèbres et la lumière? Pourquoi est-ce que rester dans les ténèbres aussi veut dire nier l'humanité de Jésus? Mais justement, parce que, en niant l'humanité de Christ, ce groupe était en train de nier le besoin d'être lavé par le sang de Christ. Si Christ n'est pas homme, il ne pouvait pas mourir pour nous et verser son sang à notre place. Il fallait que Jésus soit pleinement homme, comme on a vu la fois passée. Mourir comme un homme, à la place des hommes. Alors ce groupe était en train de nier non seulement l'humanité de Christ, mais la nécessité pour que Jésus devienne homme pour payer le prix. Ils disaient qu'ils étaient en communion avec Dieu, avec ce Jésus, esprit. Mais ils étaient toujours, dit Jean, dans les ténèbres et dans l'erreur. Alors, après avoir vu le côté négatif, voyons ensemble le troisième point ensemble, la conséquence positive. Est-ce que tu sais afficher ça, Mathieu? Merci. Si Dieu est lumière, alors troisième chose. Oh, pardon, le... Merci, oui. Troisième point. Si Dieu est lumière, alors, en bas, pardon. Le troisième point. Alors, ceux qui confessent leur besoin du sang propitiatoire, je vais expliquer ça dans un instant, du Fils, ont la communion avec lui. Alors, si Dieu est lumière, seulement ceux qui confessent leur besoin du sang propitiatoire du Fils ont la communion avec lui. C'est très logique. Lisons le verset 7 pour voir cela. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Je pense que vous comprenez maintenant ce que ça veut dire, marcher dans la lumière. Et le verset 7 a beaucoup plus de sens. C'est l'idée ici de dévoiler nos péchés, de ne plus les cacher devant Dieu, de ne plus mettre nos mauvaises œuvres au fond de la cave de nos vies. C'est plutôt de venir sur le terrain du Stade Baudouin, sous les projecteurs, de dire à notre Dieu qui sait tout et qui voit tout, que voici qui je suis, ce que j'ai fait, voici mes œuvres mauvaises. C'est un acte, oui, de humiliation devant Dieu. De dire que moi, je ne possède pas en moi-même aucune justice. Mais pourquoi faire cela? Parce que c'est très humiliant, n'est-ce pas, de faire ça? Quelle est notre assurance? Voyons le verset 7. Deux promesses magnifiques. Nous aurons, verset 7, la communion mutuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu la fois passée. Lisez les versets 3 et 4 à la maison après. Mais nous aurons une communion horizontale avec les apôtres. Et ça veut dire donc une communion verticale avec le Père et le Fils. Une communion horizontale et une communion verticale. Et quelle joie d'être en communion, en bonne relation pour toujours avec notre Dieu, notre Créateur. Deuxième promesse, verset 7. Si nous venons dans la lumière, marchons dans la lumière, verset 7, il promet que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. N'est-ce pas extraordinaire? Si nous admettons nos péchés, il purifie tous nos péchés. Et ça, c'est le merveille de l'Évangile. S'il nous montre notre besoin de justice, il met sur nous toute la justice de son Fils. Comme vous le savez, le sang, c'est d'une importance capitale dans l'histoire biblique. Est-ce que vous pouvez vous souvenir des histoires phares dans la Bible, par exemple, où le sang est d'une importance capitale? Est-ce que vous pouvez vous souvenir? Question ouverte. Le sang versé. Exode, merci beaucoup. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé à l'Exode? Merci beaucoup. En effet, oui, exactement. Merci beaucoup. Alors, l'Exode, si vous lisez Exode 12, par exemple, une histoire très célèbre pour le peuple qu'il fallait se rappeler tous les ans. Dieu allait frapper l'Égypte avec la mort. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pourvu une solution. La famille devait tuer un agneau et mettre quoi sur les portes? Le sang. Mettre du sang sur la porte. Et Dieu a promis qu'il allait passer au-dessus de chaque maison où il y avait le sang. Qu'est-ce que le sang représente alors dans cette histoire? Mais c'est le prix payé par quelqu'un d'autre. La punition de la mort est payée par l'agneau au lieu du fils aîné. La colère de Dieu prise par un autre. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un autre moment phare dans l'histoire biblique, le sang? Comment? Ah oui, oui, bouc émissaire, merci, oui. Tout à fait, le jour de l'expiation. Et qu'est-ce qui s'est passé, Gabriel, ce jour-là? Ouais, ok. Ok, je ne me souviens pas avec le linge, mais le grand prêtre a mis devant tout le peuple, il a rassemblé le peuple, il a mis ses mains sur la tête. Il y avait deux boucs. Le premier bouc, il a mis et a admis tous les péchés, confessé tous les péchés sur la tête du bouc émissaire, oui. Et lui, il devait partir dans le désert. Pourquoi? Parce que c'était une aide visuelle magnifique, n'est-ce pas? On voit nos péchés qui s'éloignent de nous, et puis ils disparaissent. Mais est-ce que c'était tout? Non, il y avait un deuxième bouc. Et le deuxième explique le premier. Qu'est-ce qui s'est passé avec le deuxième? Il fallait le tuer. Et le grand prêtre, c'était la seule occasion dans l'année, il entrait dans le lieu très saint avec le sang chaud de cet animal. Il a aspergé sur l'autel. Qu'est-ce que le sang représente alors? Mais la punition prise par quelqu'un d'autre. C'est le mot propitiation, si vous voulez. Ça veut dire que la colère de Dieu prise par quelqu'un d'autre. Le sang, c'est d'une importance capitale dans l'histoire biblique. Mais il y avait un problème, car les grands prêtres ont dû répéter encore et encore et encore ces sacrifices, n'est-ce pas? Il n'y avait pas une vraie substitution, parce qu'il fallait un homme, quelqu'un qui était à 100% homme. Et ça, c'est le sujet de 1 Jean. Est-ce que Jésus était à 100% homme? Et Jean dit oui. Et il le fallait, parce qu'il fallait un substitut parfait pour nos péchés. Et le prophète Ésaïe, vous vous rappelez, il voit dans le futur quelqu'un qui allait venir, le serviteur, qui allait mourir à la place du peuple. Enfin, un homme! Mais on ne savait pas l'identité de cet homme. Qui est cet homme? On peut le lire avec joie, n'est-ce pas? 1 Jean 1, verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, le Fils de Dieu. Ça veut dire, le Fils, 1 Jean 1, verset 1, qui était la parole, qui était le créateur au début de la création, qui a tout créé, qui était, verset 2, à côté de son Père dans la gloire depuis l'éternité. C'était lui qui a versé son sang. C'est lui qui est le vrai agneau de l'Exode, qui est le vrai bouc émissaire de le jour de l'expiation. Et le verset 9 l'explique toujours. Si nous confessons nos péchés, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous voyez là la promesse? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Le Dieu juste a trouvé un moyen de pardonner nos péchés avec justice. Et il est fidèle à cette promesse-là, parce que Jésus a déjà versé son sang. Et la section termine avec un point culminant. Le chapitre 2 et le verset 1. Tout d'un coup, Jean fait lever nos yeux vers le haut pour voir quelqu'un, pour voir un homme à côté de son Père. Lisons, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire, ou, dans quelques versions, il est notre propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. » On aime beaucoup les histoires, n'est-ce pas, des avocats. Est-ce que vous avez vu le film Erin Brockovich, par exemple? Non? Oui. Un très, très bon film. Est-ce que vous avez vu le fameux avocat Atticus Finch? Peut-être. Le film Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, un de mes films préférés. On aime bien les histoires des avocats. Mais qui peut oublier l'histoire de cet avocat ici? Cet avocat suprême. Qui peut comparer avec cet avocat? Regardons son profil. Il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui était auprès de son Père depuis toute éternité. Et maintenant, il est de retour auprès de son Père. Alors, il est dans la position parfaite pour nous défendre. Aujourd'hui, ce matin, auprès de son propre Père. Deuxième verset 1, il est juste, Jésus-Christ le juste. Cet avocat, cet homme a toujours vécu une vie juste. Il n'a jamais péché, contrairement à nous. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, sa justice couvert notre justice ce matin. Notre injustice, je veux dire. Et troisième il est l'avocat parfait parce qu'il a déjà accompli, verset 2, la propitiation. Il était la victime expiatoire. Il a pris le châtiment. Il peut dire, moi j'ai payé à la place de René. J'ai payé à la place de Lydie. Ce prix était tellement cher que, verset 2, ce n'est pas seulement pour les nôtres, mais pour tous du monde entier qui veulent se confier en lui. Alors pour finir ce matin, il nous reste la simple question, cette question tellement importante. Est-ce que nous sommes sortis? Est-ce que nous sommes sortis des ténèbres? Par cela, je veux dire, est-ce que nous avons osé venir dans la lumière, de montrer à Dieu notre besoin d'être lavé, notre besoin d'être pardonné pour nos œuvres mauvaises? Est-ce que vous dites, je ne suis pas juste en moi-même, je ne mérite pas d'aller au ciel, mais j'entre avec confiance, uniquement par les mérites de mon sauveur et mon avocat. Est-ce que vous dites aujourd'hui, Jésus est mon avocat? Et Jean veut nous persuader que nous pouvons avoir une pleine assurance, saisir ses promesses, que tout est réglé dès maintenant. Mais est-ce qu'on est tenté de quitter l'évangile apostolique alors? Est-ce que des gens viennent et disent que Jésus n'est pas homme à 100%? Je ne pense pas en ce moment que ça c'est une lutte pour nous dans l'Église. Mais je pense que dans notre milieu évangélique aussi, il y a une tentation d'enlever la centralité de Jésus comme notre propitiation. De mettre ça à côté, de mettre ça plutôt à gauche ou à droite, et pas comme central. Jésus et son sang comme central. On voit ici, selon l'apôtre Jean, que c'est d'une importance capitale. Parce que, en effet, cette doctrine est détestée par plusieurs dans le monde et dans l'Église aussi. Elle met de la lumière sur nos œuvres, n'est-ce pas? La propitiation révèle notre péché, et ça, ce n'est pas une chose très confortable, n'est-ce pas? On veut éviter de parler du péché, de la colère, du sang, d'une victime expiatoire, de l'enfer. Et donc, les églises préfèrent parler d'autre chose, et ne pas avoir Jésus et son sang comme central. Les gens ont essayé de persuader les saints dans le passé, ils vont essayer de persuader les saints d'aujourd'hui. Ah, donc, on va finir avec une histoire de quelques de mes héros dans la foi qui nous encouragent de rester fermes. On va terminer avec cela. En 1910, les groupes bibliques universitaires de Cambridge ont décidé de prendre une décision très courageuse. C'était de rompre leur communion avec une organisation qui s'appelle le SCM, c'est-à-dire le Mouvement chrétien des étudiants. Pourquoi? Parce que le SCM, en fait, c'était le groupe mondial, universel de tous les étudiants. Et ils ont dit, on fait ça parce qu'ils ont vu que ce groupe commençait à dévier de l'évangile apostolique. Et puis, après la Première Guerre mondiale, le GBU à Cambridge est devenu beaucoup plus petit que le SCM. Le SCM est énorme. Alors le leader du SCM, un monsieur qui s'appelait Rollo, quel nom magnifique, n'est-ce pas? Rollo, appelez ton fils Rollo, a décidé de faire des demandes très charmantes, très persuasives au GBU de Cambridge de retourner, de revenir sur les bras du SCM. Alors, pour résoudre ce débat, un soir, le président et le secrétaire de GBU, appelés Daniel et Grubb, ont été invités dans les chambres de ce monsieur Rollo, dans le collège le plus prestigieux, Trinité, à Cambridge, ainsi que tout le comité du SCM. Et voici ce qui s'est passé d'après le secrétaire de GBU. Il dit, après une heure de discussion, j'ai demandé à Rollo d'une manière directe, est-ce que le SCM met le sang propitiatoire de Jésus-Christ comme central? Rollo a hésité. Et puis il a dit, alors nous le reconnaissons, mais ce n'est pas nécessairement central, non. Dan et moi, nous avons dit que cette réponse-là a conclu le débat pour nous dans les GBU. Nous ne pourrions jamais nous joindre à un groupe qui ne maintenait pas le sang propitiatoire de Jésus au centre. Et ensuite, nous sommes partis de leur compagnie. Cette décision prise-là était très importante pour le monde. Car c'était à partir de ce moment-là, les GBU à Cambridge ont vu le besoin, non seulement pour les GBU en Angleterre, à Cambridge, mais en Europe et dans le monde entier. Des groupes bibliques universitaires qui tenaient comme central le sang de Jésus-Christ. Alors ce petit groupe, juste quelques-uns, à Cambridge, ont formé quelque chose qui allait devenir IFES, si vous avez entendu parler de IFES. D'où vient maintenant tous les GBU partout dans le monde actuel, dans 160 pays. et par laquelle, grâce à Dieu, des millions ont entendu l'Évangile et ont été sauvés de leurs péchés. Et d'ailleurs, il y a un GVU à Louvain-la-Neuve et je suis tellement content. Alors la question reste toujours d'actualité pour nous. Est-ce que nous, comme ces messieurs-là, est-ce que nous allons aussi demeurer dans l'unique évangile apostolique? Prions ensemble. Nous confessons devant toi, notre Père céleste, que nous avons péché, que nous avons péché contre toi et contre notre prochain, et que nous méritons aucun bienfait de tes mains, seulement ta juste condamnation. Mais merci, gloire à toi, notre Père, pour ton Fils, pleinement homme, pleinement Dieu, qui est la propitiation pour nos péchés. Merci parce qu'il nous a déjà lavés, il nous a déjà purifiés par son sang précieux, et qui nous défende ce matin dans le tribunal céleste. Gloire à toi, notre Père, pour un amour si profond et une assurance si solide. Nous te bénissons au nom de ton Fils. Amen.